Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elle et font entendre leur voix parmi le feuillage. De ses chambres à l'étage, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a planté. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont l'abri des damans. Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et c'est la nuit, où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller. Les jeunes lions rugissent après leur proie, ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voilà la grande et vaste mer. Là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands. Là se déplacent les bateaux et les léviathans que tu as façonnés pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes et ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la terre. Amen. C'était le psaume 104. Nous nous rappelons la certitude de la bonne nouvelle et de la grâce. Que chacun de nous reçoive de lui la vie, la joie profonde et la paix parfaite qui seules viennent de Dieu et Amen. Alors, rappel, à l'origine, la Pentecôte est une fête juive, comme l'est aussi Pâques. Une fête agricole, vous le savez, devenue aussi fête religieuse, exactement comme la Pâque. Elle porte le nom de Shavuot, ou fête des semaines, car elle a lieu 7 semaines après Pâques. On l'appelle aussi la fête des prémices, Pâques ayant été la fête des semences. Et dans un second temps, les Hébreux ont donné un sens religieux à cette fête agricole. Pentecôte célèbre désormais le nom de la Torah, le don de la Torah, pardon, et aussi le nom de la Torah. Mais pour les chrétiens, c'est différent, ils appellent Pentecôte la fête de la réception de l'Esprit, ce qui les confirme dans leur mission et dans leur vocation. Comme l'a dit le psaume lu pour inaugurer ce culte, verset 30, « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. » Alors, frères et sœurs, êtes-vous donc prêts aujourd'hui à recevoir l'Esprit? Eh bien, que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, je vous invite de toute façon à vous relever pour chanter le 3508, toutes les strophes, page 482. Et c'est Emmanuel Mandrin qui nous accompagne à l'orgue aujourd'hui. Restons debout pour la louange.
Nous louons Dieu. Te remercier de m'avoir donné une vie à vivre, pour apprendre à vivre. Une vie pour te découvrir. Une vie pour me découvrir. Une vie pour découvrir l'important, le secondaire, l'essentiel. Une vie pour saisir et être saisi. Une vie pour oublier, une vie pour se souvenir. Et je vous invite à chanter le 3506, page 479, toutes les strophes.
Thank you.
Nous entrons dans la prière de conversion. Rends-moi sensible aujourd'hui à toutes les grâces dont j'ai besoin pour bien te servir. Tu vois ma faiblesse, ne me laisse pas seule. Aide-moi à t'aimer dans tout ce qui se présentera à moi aujourd'hui. Je t'offre tout ce que je suis, tout ce que je ferai, tout ce que je supporterai. Je te l'offre en union avec toi et j'espère que tu m'enverras la force de ton esprit. Et tout en restant assis, je vous invite à chanter le 3509, page 483, la première strophe. Prière d'action de grâce se trouve sur votre feuille. Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, c'est lui qui guérit toutes mes infirmités, c'est lui qui arrache ma vie à la tombe. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et je vous invite à vous lever pour chanter la deuxième strophe du 35-09. La volonté de Dieu. Personne ne peut prétendre connaître la volonté de Dieu. Ce que nous pouvons connaître, c'est sa voix, même étouffée, qui nous oriente quand nous voulons bien l'entendre. Que te dit le Seigneur en ce jour ? Écoute, tel est le plus grand des commandements. Et aujourd'hui particulièrement, écoute ce que l'Esprit de Dieu te souffle. Amen. Et nous chantons la troisième strophe du 35-09.
Et nous lisons ensemble la prière d'illumination. Que ton esprit descende sur nous, pour que nos mots soient entendus, nos actes compris, notre présence au monde comme une occasion favorable de recevoir et de donner. Nous lisons au texte de ce jour, Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Qu'est-ce que la vérité demande Pilate à Jésus? Pas de réponse. Maintenant, ça suffit. Cela fait des années que l'on nous conditionne sur la relativité de la notion de vérité. Depuis les années 70, le concept est en déclin et même en ruine. La vérité est subjective. Chacun sa vérité. Chacun construit son petit monde. Cela s'appelle le constructivisme, ça a un nom. Et ça marche en plus. N'importe quel politicien construit une vérité dont il prétend qu'elle est la vérité, à charge pour lui de la faire admettre au plus grand nombre. Ce que j'aime chez lui ou chez elle, c'est au moins qu'il ou elle dit la vérité, et personne n'ose dire la vérité comme il ou elle le fait. Même le fait, si cher aux journalistes qui, quand ils ont une conscience et une âme, considèrent le fait établi comme le dernier rempart contre la relativisation de la vérité, même le fait est attaqué. Soit il n'aurait pas eu lieu, soit quand on a enfin documenté que ce fait a eu lieu, il va se trouver inséré dans une sorte de continuum qui va prétendre à le relativiser. Il faut comprendre le contexte. Tout n'est pas si simple. Il y a des nuances. Il y a tout un historique. Ou alors, je n'ai jamais dit ça. Ah, mais si, tu l'as dit, en voici la preuve, audio, vidéo. Je n'ai jamais dit que je n'avais jamais dit ça. Au fond, le fait n'existe plus vraiment, puisque quiconque le relate produit un texte, et tout texte est susceptible d'une multiplicité, voire pour certains, une infinité d'interprétations. Une infinité. Ça va loin quand même. Umberto Eco, un jour, a consacré un livre intitulé « Les limites de l'interprétation ». Et ce livre m'a sauvé, non pas la vie, mais en tous les cas, je le crois, une partie de mon intégrité d'interprète. Parce que oui, j'étais alors, en 1994, l'année de la parution de ce livre, certains parmi vous n'étaient pas nés, j'étais sur une pente glissante que j'appelle celle de l'infinie productivité d'un texte. J'étais alors fasciné, par exemple, par la présence permanente de ce que Umberto Eco appelle le fantôme du lecteur, le maître absolu du sens. Celui qui n'a pas une conception écologique d'un texte, je m'explique, c'est-à-dire qu'il considère le texte comme une ressource infiniment renouvelable, selon son humeur, selon son époque, selon son désir, selon le temps qu'il fait. Tiens, aujourd'hui il fait gris, alors je vais repeindre ce texte en gris et je vais dire qu'il est gris, que le gris est la vérité de ce texte, que le gris est la vérité, puisque le lecteur serait le véritable écrivain du texte et tout ce qu'il va en dire sera dès lors sacré. J'avais perdu de vue l'adolescent énervé que j'avais été un jour quand, un dimanche, je suis sorti d'un culte en claquant symboliquement et moralement la porte d'une église évangélique, en me jurant que je deviendrais pasteur pour prouver que non, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à un texte biblique. Il y a des limites. Vous les avez entendues, ces limites, dans le psaume. Non, un texte, et en ce qui nous concerne, un texte biblique, n'est pas le prétexte pour exercer exclusivement notre art poétique ou notre volonté idéologique. N'importe quel texte a une structure, une logique, il emploie tel ou tel mot, et non pas le mot que vous auriez aimé qu'il emploie, Le texte est d'abord fait de résistance. Non, vous ne pouvez pas prétexter d'une traduction originale pour le transformer à votre gré. Il y a des limites. Et c'est important, les limites. Le décalogue fixe des limites. Tu ne commettras pas de meurtre. Ah oui, mais c'est quoi un meurtre finalement ? Tu ne commettras pas d'adultère. Mais au fond, qu'est-ce qu'un adultère ? Il est raconté aussi dans la Genèse que le Dieu créateur fixe des limites entre l'eau, la terre, le ciel. Jésus fixe des limites. Il dit, il crie, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Il y a des limites partout. Toutes ne sont pas sacrées, toutes ne sont pas réelles. Certaines de ces limites sont des limites dont on vous fait croire qu'elles le sont. Et nous devons apprendre à nous en dégager. Par exemple, des limites imposées par une mauvaise éducation qui nous empêchent ou nous interdisent de pouvoir être heureux. Mais certaines de ces limites sont réelles, certaines sont utiles, certaines participent de la vérité. Elles donnent du sens, elles nous sortent de l'informe et du vide, du tohu-bohu, comme dit la Genèse. Bref, même si n'importe quel texte a un champ plus ou moins grand d'interprétation possible, même si les mots d'un texte offrent beaucoup d'espace possible pour l'interprétation ou la traduction, même s'il faut débattre pour l'éclaircir, ce texte, et même si le consensus est provisoire, puisqu'un jour de nouvelles données seront disponibles, par exemple pour la Bible, de nouvelles données archéologiques, même si tout ça finalement est bien difficile, difficile car cela nécessite un effort de lire un texte, un énoncé, et dans l'actualité dans laquelle nous sommes, cela en devient même exténuant, tant les communicants sont à l'œuvre pour nous faire croire n'importe quoi à partir d'un fait ou même d'une rumeur, eh bien, malgré tout ça, il est quand même nécessaire de continuer à croire en la vérité. Et c'est à ce moment-là que la fête de la Pentecôte, frères et sœurs, prend une dimension utile. Les Hébreux considéraient donc que Pentecôte célébrait la réception de la Torah. Et par une espèce d'intelligence collective qui ne lasse pas de fasciner, le christianisme en a fait, lui, la fête de l'esprit. Mais pas de n'importe quel esprit. La première épître de Jean le rappelle d'ailleurs en disant, en avertissant, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits » pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, éprouvés, travaillés donc. On parle ici de l'Esprit de Dieu, le Père, le Créateur, qui est désigné dans le texte du jour que vous avez en gros sur votre feuille de culte comme l'Esprit de la vérité. C'est lui qui me rendra témoignage, dit Jésus au travers de Jean. Et il ajoute tout de suite, dans la suite qui n'apparaît pas, elle, sur votre feuille, au chapitre 16, il ajoute, « Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Mais attention. Mais attention, oui, puisque vous comprenez d'avance le risque de cette assertion biblique, risque évident. Certains, de nombreux, des myriades, ont prétendu être conduits par l'Esprit pour faire croire à des vérités qui n'étaient que des erreurs ou pour manipuler d'autres esprits plus faibles. Des personnes qui ont une telle capacité à s'autoriser de leur propre personne qu'elles en deviennent fascinantes. Tant d'aplomb, tant de quant à soi ne peut que signifier que cette personne a la vérité en elle. C'est donc face à ce risque que l'Église, telle que les protestants la conçoivent, c'est-à-dire non pas une Église magistère et verticale, mais l'Église assemblée, horizontale, en fait le parlement des frères et des sœurs, qui ne se considèrent pas comme des réceptacles vides à remplir, mais comme des personnes capables d'interpréter eux-mêmes des données bibliques, et aussi d'interpréter ce que n'importe quel beau ou belle parleur ou parleuse tente de leur asséner. Tout protestant fut pape une Bible à la main, écrivit en 1711 dans sa satire 12 sur les équivoques le très catholique Nicolas Boileau. Son alexandrin, tout protestant fut pape une Bible à la main, est une pique contre la religion prétendue réformée. Et le rigolo, c'est que certains protestants la font leur, cette phrase. Mais à tort, en fait. Il ne s'agit pas d'être un pape, y compris un pape solitaire dans sa chambre dirigeant des foules d'idées imaginaires. Il s'agit d'écouter l'Esprit de Dieu. Et pour cela, l'Église est nécessaire, qu'elle soit catholique ou protestante. C'est égal. L'Église est nécessaire car elle vous fournit non seulement à la fois les limites, c'est-à-dire les autres qui peut-être ne seront pas d'accord avec vous ou même iront vous dire, voire vous prouver que vous dites n'importe quoi, non seulement des limites, mais aussi, et c'est encore plus important, cette Église vous fournit, si vous voulez bien vous en saisir, des moments, des occasions et des lieux pour que vous puissiez en toute sérénité et aussi humilité être inspiré. Car il s'agit bien de cela, d'inspiration. Être inspiré par la vérité, celle qui va se loger au fond de votre cœur, celle que vous toucherez concrètement, et ce contact sensible avec elle vous rendra encore plus humble, car ce que vous aurez découvert sera tellement plus vivant et plus profond que toutes vos imaginations. Vous serez reconnaissant. Inspiré, vous deviendrez inspirant. Éclairé, vous deviendrez éclairant. Éclaireur. Face à Dieu, vous ne pourrez que rester, devenir ou redevenir humble, modeste. Cet esprit de la vérité, et notez bien, c'est la vérité, il y a un article qui n'apparaît pas dans toutes les traductions, cet esprit de la vérité n'est pas là pour vous faire monter au nu dans je ne sais quel espace infini. Il est là, cet esprit, pour vous ramener à terre, parfois loin de vos idéaux, mais sur la terre ferme, concrète, dans la proximité du réel. Alors, bonne fête de la Pentecôte et Amen.